Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme. On est ravis de vous retrouver comme chaque samedi matin sur RTL. De 9h15 à 10h dans Nous voilà bien, on démarre le week-end avec des conseils conso, des recettes à tomber par terre et de la bonne humeur. Bien évidemment, ça fait du bien en ce moment. Allez, c'est parti pour le sommaire. Elles sont obligatoires et une fois qu'on y souscrit, on n'y fait plus vraiment attention. Mais savez-vous que l'on peut renégocier nos assurances ? Mode d'emploi avec Carmel Lévy, journaliste au service éco et conso de RTL, vous allez être surpris. C'est la Green Week sur l'antenne d'RTL qui se mobilise pour la cause environnementale. L'occasion de nous demander si la réduction de nos déchets ménagers, évidemment bonne pour la planète, permet aussi de faire des économies. D'une pierre deux coups avec Julien Vidal, fondateur de sacommencepartmoi.com, qui nous accompagne vers un mode de vie plus écologique, durable et joyeux. Savez-vous, non pas planter, mais cuisiner le chou. Le chef Grégory Cohen va nous faire raffoler de ce légume mal aimé.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Bonjour Arlène Lévy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin, comme tous les week-ends. Vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL. Une fois que l'on a pris une assurance habitation ou voiture, c'est vrai qu'on se dit que c'est une bonne chose de faite et puis on n'y pense plus vraiment. Est-ce qu'on a tort ?
On a tort, oui. C'est même une grosse erreur. Il faut se poser la question au moins tous les 2-3 ans. D'abord parce que c'est l'occasion de faire de réelles économies. Je vous donne l'exemple d'un automobiliste qui a changé 2 fois d'assurance en 2 ans. Eh bien, il a économisé 300 euros en tout, 50%. Ce n'est pas rien. Il y a aussi cet autre assuré qui a réalisé presque 1000 euros d'économies sur l'année simplement en renégociant auprès de son propre assureur ses contrats pour sa maison et pour ses 2 autos. La deuxième raison, si vous n'avez pas changé d'assurance depuis longtemps, il y a fort à parier que vous n'êtes plus assuré pour ce qu'il faut. Un exemple, il y a 5 ans, vous avez acheté une nouvelle voiture, vous l'avez assurée tout risque. Eh bien aujourd'hui, comme elle a plus de 5 ans, eh bien votre voiture ne vaut plus grand-chose. Donc est-ce bien utile de continuer à payer une assurance tout risque plein pot plutôt qu'une assurance au tiers ? Puisque de toute façon, avec une vieille voiture, vous serez moins indemnisé. Donc ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil à votre contrat de temps en temps pour le faire évoluer en fonction de votre situation et de vos besoins d'aujourd'hui.
Et puis c'est vrai qu'on imagine qu'en étant un client, je dirais, de longue date, on bénéficie d'un meilleur prix. C'est une réalité ça ou pas ?
Pas du tout.
Ouais, c'est comme le téléphone.
Pas du tout. Ouais. Les assureurs ont la fâcheuse tendance à ne pas récompenser la fidélité. Ouais. Les assureurs comptent sur l'inertie de ceux qui sont là depuis des années et qui ne touchent pas à leur contrat pour réserver leur promotion aux nouveaux entrants. Comme vous dites, hein, comme les téléphones. L'UFC a sorti récemment une enquête qui prouve qu'en 10 ans, les assurances auto ont augmenté en moyenne de 22%, les assurances santé de 24% et les multirisques habitation de 34%. Donc même avec un bonus, même si vous n'avez pas eu d'accident, aucun sinistre, en gardant le même contrat, vous n'échappez pas à la hausse annuelle de 2-5%. Donc votre prime s'alourdit d'année en année, alors que si vous changez d'assureur, si vous allez voir ailleurs, vous allez trouver des offres avec 1 ou 2 mois gratuits ou 200 euros d'offert.
Mais les offres des assurances, en fait, d'après ce que j'entends, elles évoluent chaque année.
Oui, disons que ce sont plutôt les comportements qui évoluent. Par exemple, avec les confinements, vous êtes très nombreux à avoir moins utilisé votre voiture pour aller travailler. Donc, comme vous roulez moins, vous avez des assurances qui proposent de payer non plus au nombre de kilomètres réalisés par an, mais au nombre de trajets réels réalisés dans le mois. Et c'est avantageux. Si vous ne prenez plus votre voiture tous les jours, vous pouvez économiser presque la moitié du prix de l'assurance. Ce sont des formules qui s'appellent « Pay as you drive », payez comme vous conduisez. Vous trouvez des précisions, si la formule vous intéresse, sur le site d'information en banque et assurance, moneyvox.fr.
Mais est-ce que payer plus cher, c'est être mieux couvert ? Vous allez me dire que non.
Non, pas forcément. Bravo. Vous pouvez trouver beaucoup moins cher avec les mêmes garanties en allant sur Internet. Bon, le revers de la médaille, c'est que vous n'aurez pas le même service. En cas de sinistre, vous devez tout faire en ligne ou appeler un 0800. Vous ne pourrez pas aller voir votre conseiller avec le constat pour voir si vous avez tout bien rempli. Il faut être à l'aise avec ça et en assurance, ce n'est pas évident. Mais je vous invite aussi à relire vos contrats actuels tranquillement, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses pour lesquelles vous pensez être couvert alors qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Et payez pas cher une assurance où il n'y a rien dedans, vous ne vous rendez pas service. Par exemple, être assuré contre le vol, cela ne veut rien dire.
Ah bon, mais pourquoi ?
Eh bien, le vol en assurance n'a pas la même définition que dans le dictionnaire. Vous avez au moins 4 ou 5 catégories différentes de vol. Est-ce que vous êtes assuré pour un vol avec effraction, pour un vol avec usage de fausses clés, pour un vol avec introduction clandestine ? Et si ce n'est pas la bonne case, vous ne serez pas remboursé. Après, faites-vous bien expliquer les mesures de protection que l'on exige de vous. Si votre contrat prévoit que vous devez avoir une serrure 5 points ou des barreaux aux fenêtres au rez-de-chaussée et que vous n'en avez pas, vous aurez payé des années pour rien et vous ne serez pas remboursé. Donc il faut faire attention à cela. Le résumé qui dit que vous êtes assuré contre le vol, cela ne veut absolument rien dire.
Non mais c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que de découvrir qu'on n'est pas couvert au moment d'un sinistre. Hein. Pourtant ça arrive tous les jours. Ils le font exprès les assureurs ?
Non,
ils sont des petits malins ?
Non, je ne suis pas en train de dire que les assureurs le font exprès. C'est vraiment que la matière, elle est difficile. Ouais. On n'est jamais assuré contre tout, cela n'existe pas. Vous êtes assuré pour des choses précises, à des conditions précises. Et si vous ne respectez pas ces conditions, vous n'êtes pas assuré. Donc avant de souscrire un contrat, on fait sa petite liste de questions, on s'assoit et on interroge le conseiller. C'est pour cela que ce n'est pas facile de tout faire par Internet.
Mais comment est-ce qu'on peut évaluer nos besoins précis en fait, Armelle Lévy ?
Eh bien, en assurance habitation, regardez bien si votre capital meuble est toujours adapté à vos besoins. Je m'explique. Demain, vous avez une inondation dans votre appartement à dégâts des eaux. Tous vos meubles sont morts. L'assurance va vous demander de lister vos meubles, elle va vous rembourser vos meubles, moins la vétusté, moins la franchise, et dans la limite du capital meuble que vous avez souscrit. Si vous êtes dans cet appartement depuis 20 ans et qu'il y a 20 ans, vous étiez un petit étudiant, vous aviez trois fois rien, vous aviez pris le minimum et vous n'avez jamais touché à ça, vous serez couvert dans la limite du petit capital meuble que vous y aviez souscrit il y a 20 ans. Mais généralement, en 20 ans, vous avez vécu, vous avez acquis des choses, bien donc sûr. Il faut penser à réévaluer vos meubles, vos bijoux, vos tableaux. A l'inverse, ce n'est pas la peine de prendre un contrat qui rembourse le matériel neuf si tous vos appareils électroménagers ont plus de 20 ans. Donc c'est ça, faire le tour de ses besoins. En matière de santé, il faut se poser la bonne question. De quoi j'ai besoin pour ma santé aujourd'hui ? J'ai besoin de m'acheter des lunettes avec des verres progressifs ? J'ai besoin d'une couronne pour mes dents ? De combien je vais être remboursé ? Quel est mon reste à charge ? Prenez une base qui vous intéresse pour comparer. Et pour la voiture, c'est vraiment quelle est ma voiture ? Est-ce qu'elle est toute neuve ? Si oui, je prends l'assurance dommage tout accident. Si elle est toute vieille, vous pouvez vous contenter d'une assurance au tiers. Et après, est-ce que vous l'utilisez beaucoup ?
Encore plein de questions à vous poser, Armelle Lévy. Comme chaque samedi matin, on n'a pas fini de faire le tour de la question. On va se retrouver dans un instant. Et puis, on retrouvera également Julien Vidal, fondateur de Ça commence par moi, et le chef Grégory Cohen qui nous parlera du chou. Et avec lui, le chou devient sexy. C'est pas formidable, ça ? On se retrouve tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bienvenue dans Nous voilà bien, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Dans un instant, nous allons parler déchets ménagers, ensuite on parlera du chou, mais pour l'heure, on parle d'assurance avec Armelle Lévy. Merci d'être avec nous. C'est vrai que le programme ce matin, entre le chou, les déchets ménagers, les assurances, on informe nos auditeurs. Les assurances, on l'aura compris, hein, il faut en fait avoir sans cesse un œil dessus. On a tendance à souscrire un contrat et puis à se dire,
ça
y est, maintenant je suis protégé. Alors qu'en réalité, il faut régulièrement le revisiter et gérer, le réactualiser. Un contrat d'assurance, en fait, ça nous engage.
Oui, vous avez deux engagements principaux quand vous êtes un assuré. C'est de payer vos mensualités, bien sûr, sinon vous ne serez pas couvert. Et surtout, c'est de déclarer le plus justement possible votre risque. Parce que si vous faites une fausse déclaration, cela peut aller jusqu'à la nullité du contrat. C'est-à-dire que vous avez payé votre assurance pendant des années et on vous dit « ah ben non, ce n'est pas ce que vous m'aviez déclaré au départ, tant pis pour vous ». Et oui, par exemple, il y a 10 ans, vous avez déclaré que vous aviez un garage, vous avez déménagé entre-temps et vous n'avez plus de garage. Eh bien, en cas de vol de votre voiture, on vous demandera pourquoi elle n'était pas au garage. Ah bah zut, en fait, j'ai oublié de vous le dire, j'ai plus le garage. L'assurance vous dira non, tant pis, vous n'êtes pas couvert légalement. Vous devez de toute façon avertir votre assureur en cas de changement de situation.
Voilà, donc c'est à nous d'être vigilants sur ce sujet, en fait, et de réactualiser à chaque changement de vie,
exactement, je dirais,
hein. Est-ce qu'on peut renégocier un contrat à tout moment ?
Oui, dès l'instant où vous êtes assuré chez un assureur depuis plus d'un an, vous pouvez partir en 30 jours. Au bout d'une année pleine, vous pouvez changer à tout moment. Et c'est votre nouvel assureur qui s'occupe de tout. C'est lui qui va faire la démarche de résiliation. Comme ça, il n'y a pas d'interruption de la garantie. Vous êtes toujours couvert.
Est-ce qu'il existe d'autres conditions aussi ?
Oui, vous pouvez résilier ou renégocier votre assurance sans attendre un an. Dès qu'il y a un changement de situation, un déménagement, un mariage, un divorce, un changement de situation professionnelle, un départ à la retraite, ou si vous vendez votre voiture, vous n'êtes pas obligé d'assurer le nouveau véhicule chez lui. Et pour l'assurance emprunteur sur les prêts immobiliers, vous pouvez changer 15 jours après la signature de l'offre de prêt. C'est là où finalement il y a le plus d'économies à faire, ça se chiffre en milliers d'euros par an.
Mais comment on arrive à convaincre son assureur ? C'est pas peine perdue ?
Non, généralement, plus vous amenez de contrats, plus vous avez de chances d'avoir une réduction. Après, vous pouvez aussi juste demander un devis à la concurrence et revenir frapper à la porte de votre assureur. Il pourra peut-être faire un geste et s'aligner. De toute façon, je vous dis Flavien, ce serait dommage de rester 15 ans dans la même compagnie d'assurance sans rien demander à personne et sans rien renégocier.
Et quels sont les conseils que vous pouvez nous donner, les erreurs à éviter lors d'une renégociation ?
La règle numéro 1, alors là c'est Kevin Hitch, courtier au cabinet HFZ Assurance qui nous le conseille. Il ne faut jamais mentir. C'est une très mauvaise idée parce que vous aurez beau payer vos cotisations pendant des années, si vous mentez, vous n'aurez droit à rien du tout. Par exemple, vous faites une extension dans votre maison. Si vous ne la déclarez pas à votre compagnie, le jour où il y a un sinistre, elle va vous dire « je regrette, le nombre de pièces n'est plus bon ». Vous auriez dû payer ça comme cotisation, vous avez fait une fausse déclaration et cela peut faire très très mal. La deuxième règle, c'est de ne pas aller trop vite avant de signer. Si le prix baisse, est-ce qu'on vous a enlevé des garanties et si oui, lesquelles ? Est-ce que c'est toujours en adéquation avec mes besoins ? Parce que faire des économies, c'est humain, mais l'assurance, c'est un secteur très difficile à comprendre quand on n'y connaît rien. Donc faites-vous toujours expliquer ce pourquoi vous êtes assuré, à quelles conditions vous êtes assuré et ce pourquoi vous n'êtes pas assuré.
Et je pense à ça, si la renégociation elle n'est pas acceptée, on a des options, on peut jouer avec la concurrence.
Ah oui, surtout profitez-en, il y a plein d'acteurs, il faut partir. Ouais. D'ailleurs, parfois ce sont les assureurs qui ne veulent plus de vous, vous êtes un mauvais payeur, vous avez trop d'accidents, vous avez un malus trop important, et bien sachez que pour les assurances obligatoires, assurance au tiers pour la voiture, habitation pour les locataires et copropriétaires, vous pouvez saisir le bureau central des tarifications pour obliger l'assureur de votre choix à vous couvrir pendant un an. Et oui, l'État ne peut pas exiger que les gens soient assurés et ne rien prévoir si aucune compagnie ne veut les prendre. Donc n'hésitez pas à faire une demande sur le site du BCT, Bureau Central des Tarifications.
Eh bien, c'est sur le BCT qu'on va se quitter, justement. Armelle Lévy, je vous remercie pour toutes ces informations. Grâce à vous, chaque semaine, on apprend plein de choses et on devient vraiment des consommateurs acteurs, je dirais, plus avertis et on fait des économies. Merci beaucoup, Armelle Lévy. Prenez soin de vous.
Merci, vous aussi.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
I am green and it'll do fine. It's beautiful. I think
et si on dansait avec Frank Sinatra ? C'est pas beau ça. Julien Vidal, vous voulez danser avec moi ?
Avec plaisir. Bonjour Flavie.
Bonjour Julien, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de sacommencepar.com, vous êtes auteur également chez Pocket. C'était la sortie le 7 janvier de votre livre « Ça va changer avec vous ». Qu'est-ce qui va changer ? Eh bien nos déchets ménagers. Quel intérêt est-ce qu'on a à réduire nos déchets ménagers, Julien ?
C'est un peu cette idée de tordre le cou à la fable du petit pousset que nous sommes devenus, celui qui laisse des déchets partout où il va.
Oui.
On pourrait se dire que c'est une question d'éthique personnelle. Hein. On le voit bien, la priorité des Français numéro une aujourd'hui, c'est l'écologie. Et donc, on pense tout de suite à nos déchets qui sont partout. Mais c'est aussi une question d'économie. Et ça, on va en parler. Vous avez plein de questions, j'en suis sûr. Mais ça, on n'y pense pas souvent. On a l'impression que toute la démarche éco-citoyenne est un fardeau. Alors qu'en fait, elle est libératrice et en plus génératrice d'économie. Et ça, c'est toujours bienvenu, surtout en ce moment.
Et moi, quand on parle de déchets ménagers, je pense gaspillage. Ça va de pair, tout ça.
Ouais, mais en fait, c'est même le déchet le plus important, j'ai envie de dire. Parce que le gaspillage alimentaire, c'est considérable. Il y a quand même un tiers de la nourriture qui est produite dans le monde qui est jetée. Et nous, en France, c'est plusieurs centaines d'euros chaque année qu'on jette à la poubelle, dont des kilos et des kilos de nourriture qui restent encore emballées. Et là-dessus,
pour
on a
foyer,
un vrai...
Pour un foyer, vous dites. Centaines d'euros pour un foyer.
Exactement. Donc, il y a de vraies économies à faire. Ça dépend forcément de la taille du foyer, ça dépend des habitudes. Mmh. Mais rien que là, il y a des leviers extraordinaires. Quelques-uns pour vous en citer, ça serait par exemple d'apprendre à faire la différence entre durée, vous savez, les DDM, la durée, la date limite de consommation, la durée minimale d'utilisation. Tout ça, on n'y voit pas très clair. Et en fait, il y en a qui sont effectivement, qui ont une péremption et donc on est obligé de jeter. Et d'autres, c'est juste un conseil. Et donc, ça permet de dire que là, le goût sera peut-être légèrement altéré. Et rien que ça, c'est hyper important. Après, quand on va faire les courses, on privilégie le vrac. On n'y pense pas forcément, mais le vrac, ça permet d'acheter les quantités justes. on rentre dans un supermarché, on se retrouve parfois avec des bonnes affaires, mais on achète en très grande quantité, ce qui fait que ça termine à la poubelle. Le meilleur moyen, enfin, si je parle du vrac, c'est parce que du coup, ça permet de limiter le gaspillage alimentaire, mais aussi les emballages. Et ça, c'est un autre déchet
alors,
considérable.
Justement, on va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Julien Vidal, des questions à vous poser. On parlera de l'emballage parce que moi, je suis toujours scotché de voir des petits produits emballés dans des grands cartons. Donc, j'aimerais bien comprendre ça. On parlera évidemment économie, on parlera des produits jetables. Enfin bref, des questions qui nous sont arrivées, qui seront très concrètes pour faire non seulement des économies, mais aussi pour pouvoir réduire nos fameux déchets ménagers. Et ensuite, c'est Grégory Cohen qui viendra nous parler du chou. Et vous allez voir tout à coup, le chou, bah, ça va vous faire envie. À tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
On ne fait pas que planter les choux, on ne fait pas que de la soupe aux choux. Dans un instant, Grégory Cohen va nous montrer, nous démontrer que l'on peut se régaler avec du chou. Mais pour l'heure, oui, effectivement, un petit effort et vous allez voir, ça passe tout seul. On va réduire nos déchets ménagers.
Just a little green, like the color when the spring is born.
On réduit nos déchets ménagers avec Julien Vidal. Il est fondateur de sacommencepartmoi.com qui regorge évidemment de conseils. Comment ne plus gaspiller? Comment réduire, je dirais, nos déchets ménagers? Et parmi ces fameux déchets, vous l'avez dit, il y a d'abord effectivement les dates de consommation de nos produits pour ne pas gaspiller. Et là, j'invite tous nos auditeurs à aller sur les replays de Nous voilà bien sur l'application RTL, puisqu'effectivement, on a déjà consacré des émissions à ce sujet. Et puis, il y a aussi les emballages. Alors, on est quand même parfois dans le non-sens, Julien Vidal.
Oui, c'est la folie. Non, c'est la folie. Il y a même tout un tas de communications sur Internet qui montrent justement cette folie des emballages avec des canettes emballées dans du plastique, des oranges dont la peau a été enlevée et qui sont elles aussi dans des barquettes en polystyrène. Enfin, il y a...
Mais c'est comment fou. Ça s'explique, ça?
J'ose même pas dire que ça soit de la bêtise. Je pense qu'on tombe dans un souci parfois qui est sanitaire et on le voit en ce moment hein, avec à nouveau c'est de ça. Plus en plus de portions individuelles, de plus en plus de plastique et puis de temps en temps aussi la perte du bon sens. On est dans ces grands supermarchés, de plus en plus complètement hors de la nature et en fait on se pose même plus la question. C'est un automatisme et je pense que s'intéresser à la question des déchets, c'est pas la seule question éco-citoyenne, mais je trouve que c'est un bon moyen de sortir un peu de cet automatisme et de se rendre compte, encore une fois, je l'ai dit, que c'est une source d'économie, mais à travers les exemples que je vais vous donner aussi, je fais un petit teaser, que c'est source de lien à l'autre, que c'est source de créativité. Enfin, c'est vraiment une occasion de vivre mieux, en fait, plus largement.
Bon, la solution, c'est entre autres le vrac. Ça séduit les consommateurs ou pas, le vrac, en pleine période
oui,
sanitaire?
Oui, c'est en plein boom. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, en fait, là, cette année qui est passée, a vu l'essor assez exponentiel de la consommation dans les commerces de proximité, notamment directement auprès des producteurs. Et donc, du coup, qui dit auprès des producteurs dit souvent en vrac, les magasins bio aussi ont une offre vrac. On le voit de plus en plus dans les grands supermarchés. On s'attend pas au détour d'un rayon à tomber sur tout d'un coup une nouvelle installation qui propose des produits en vrac, parce que finalement, ça reste très propre. On apporte nos contenants la plupart du temps, c'est directement ensuite mis dans nos étagères, donc ça évite les manipulations. Et puis ensuite, moi je vous dis vrac, on imagine tout de suite ces magasins compliqués, des installations, alors qu'en fait, tout le monde a déjà acheté en vrac, c'est le marché du week-end. Il suffit d'aller sur la place de son marché au coin de sa rue, et puis là on se balade avec son panier, on achète en vrac, et en plus on est directement en lien avec les producteurs locaux qu'on connaît, qui nous vendent la juste dose, et on soutient l'économie locale. Enfin franchement là c'est de tout gagnant quoi.
Et je pensais aussi aux produits jetables. Est-ce que c'est si pratique et si économique que cela? Parce que réutiliser des produits réutilisables justement c'est une bonne alternative, non?
Oui, d'autant que les produits jetables de plus en plus vont être interdits. Là, on a tous les gobelets et cotons, etc., qui sont interdits. Donc, c'est une question aussi de comment on anticipe ces habitudes qui sont bonnes à prendre tout de suite, parce que de toute manière, à un moment, on n'aura pas le choix. Économiquement, c'est forcément très, 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 très intéressant, parce que les cotons démaquillants, parce que les couverts, etc., bah, à force, ça pèse. Et on parle de quelques dizaines d'euros par-ci, par-là, mais au bout du compte, encore une fois, à la fin de l'année, par foyer, ça fait plusieurs centaines d'euros d'économie. Et puis en plus, ça veut dire qu'il y a moins de plastique. Et moins de plastique, c'est bon pour notre planète, c'est bon pour les océans, mais c'est aussi bon pour la santé.
Je pensais au papier aussi, avec les technologies modernes, est-ce que la consommation de papier a vraiment baissé? Et je pense aussi au confinement avec le télétravail. Je me demande s'il n'y a pas eu un boom de consommation de papier.
Là, j'avoue que je n'ai pas vu les dernières études en cours, mais ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de l'ordinateur sur le bureau, et puis ensuite des e-books, n'a pas forcément diminué la quantité de papier utilisé, parce qu'on a eu des mauvais réflexes, on s'est mis à imprimer les mails, on s'est pris à faire un peu des folies comme ça, et puis aussi parce que, en fait, c'est pas tout le temps le bon plan, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si on reçoit un mail, qu'on ensuite le télécharge, qu'on prend le temps d'effacer son email, alors là, effectivement, les factures et tout ça, ça a du sens de le garder sur son ordinateur. Pourtant, si on continue à le conserver sur les serveurs, en fait, les serveurs, ils tournent. Et au final, ça polluera plus. Pareil pour une liseuse. Il me semble que le chiffre était plus de 70 livres sur sa liseuse avant que ça soit rentabilisé écologiquement. C'est à vérifier. Mais en fait, le livre aussi, c'est un outil presque d'inception. J'allais dire, c'est quelque chose qu'on a, qu'on prête, qu'on offre. Et donc, du coup, il a une valeur, il a une rentabilité écologique, si je peux le dire comme ça.
Je suis tellement d'accord avec vous. Du côté des déchets alimentaires, on a des astuces aussi alors ou pas?
Du coup, je vous ai parlé de la DLC. Donc DLC, c'est on peut pas dépasser DDM.
Date limite de consommation.
Ensuite, il y a de plus en plus de frigos partagés, des frigos solidaires, ça s'appelle, qui sont un peu au coin de nos rues. On peut trouver les infos sur leur site internet et qui permettent, quand on part en vacances, de déposer la nourriture qui est encore bonne et qui va être jetée. Et en fait, du coup, il y a des personnes plus vulnérables qui peuvent se servir. Je vous disais tout à l'heure que le gaspillage alimentaire et la lutte contre les déchets est une occasion de créer du lien. Vous pouvez participer à ce qu'on appelle des disco-soupes. Les disco-soupes, vous allez sur leur site internet. C'est l'occasion, en fait, de récupérer les invendus alimentaires dans les supermarchés, d'organiser avec un stand la production d'une soupe, par exemple, mais ça peut être aussi de jus de fruits, etc., qui sont distribués gratuitement dans la rue. En général, il y a de la musique, les gens viennent déguisés, c'est hyper sympa. Et c'est aussi du lien solidaire, parce qu'il y a plein d'associations, je pense notamment au Chaînon Manquant, qui fait ce travail à Paris, mais pas que, qui permet, en fait, de récupérer des invendus alimentaires dans les supermarchés encore, mais aussi dans les cantines, les restaurants, etc., et les distribuer à des centres d'accueil de réfugiés, de migrants, de personnes à la rue. Et là aussi, c'est recréer du lien et puis aider ceux qui sont les plus vulnérables. Ça a du sens. Et après, pour ceux qui adorent, on l'a vu, on est 66 millions de cuisiniers en France. En fait, l'idée de retravailler des produits qu'on a déjà cuisinés, ça peut être intéressant. Et là aussi, il y a tout un tas de sites internet qui proposent des recettes pour cuisiner les restes ou aussi cuisiner et éviter de jeter les épluchures. Et on peut faire comme ça un pesto de fans de radis, des chips de peau de patate. Et c'est bien plus bon que ce qu'on peut imaginer. Je suis sûr que tous les cuisiniers avec lesquels vous travaillez vous diront la même chose.
Exactement, Grégory Cohen qui nous écoute et qui va nous rejoindre dans un instant est forcément d'accord avec vous. Concrètement, l'électroménager qui ne fonctionne plus, qu'est-ce que j'en fais?
Là aussi, Flavie, c'est vraiment une économie extraordinaire parce qu'on parle de pièces qui parfois peuvent coûter plusieurs centaines d'euros. Donc, avant de la jeter, on fait tout pour acheter le plus solide possible, garantie 5 ou 10 ans à vie idéalement, peut-être même reconditionner, ça c'est intéressant. Il y a un site par exemple comme envie.org qui permet de faire travailler des personnes éloignées de l'emploi, là aussi, qui propose tout un tas d'électroménagers reconditionnés. On allonge la durée de vie au maximum, on entretient bien. Et ensuite, avant de jeter, il y a des sites sur Internet qui permettent de réparer. Je pense à iFixit ou à SoSav, qui permettent soi-même de réparer, de commander les pièces, c'est très bien fait. Et au dernier recours, on peut aller sur un site qui s'appelle Écosystème et qui va permettre de tracer l'endroit où on peut déposer nos déchets pour, encore une fois, au mieux leur redonner une seconde vie, au pire les recycler.
Merci beaucoup Julien Vidal, c'était intéressant, c'était passionnant, c'était très clair. Je rappelle que vous êtes fondateur de sacommencepar.moi.com et auteur de Ça va changer avec vous aux éditions Pocket.
À bientôt. Merci,
Julien
Flavie,
Vidal,
à bientôt
sur l'antenne d'RTL.
Le coup de cœur de Flavie.
Et nous, on prolonge la Green Week avec le coup de cœur de Nous Voilà Bien. Allez découvrir le travail de la marque franco-brésilienne Physis, qui propose des bijoux haute fantaisie sublime, mais également éthiques et éco-responsables. C'est notre coup de cœur. La marque est en partenariat avec des programmes sociaux locaux qui recyclent l'or et la réutilisation des eaux usées dans le processus de plaquage des bijoux. Et pour chaque bijou vendu, Physis plante un arbre au Brésil. Donc nous, évidemment, on les soutient. Alors faites un tour sur leur site, c'est magnifique. Physis Paris.com. On se retrouve tout de suite sur RTL. Grégory Cohen nous attend. Il va nous faire aimer le chou. Quel défi!
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Et on termine toujours notre rendez-vous du samedi matin en cuisine et en beauté. De quoi qu'on parle aujourd'hui ? Bien écoutez.
Sens-moi ça, ça sent bon. Ça sent le jardin.
Bon, et puis après, ils font un concours de paix, quoi. La soupe au chou, bonjour Grégory Cohen.
C'est exactement ça. C'est un super film de Christian Fechner, La soupe au chou, avec une symphonie assez
brillante. On a tous essayé après, hein, mais on l'a pas aussi bien fait, quoi. Grégory Cohen, merci d'être avec nous. Vous êtes chef, vous êtes initiateur des repas de Toqué pour améliorer la qualité des repas dans le service adolescents et jeunes adultes à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Donc non seulement vous êtes un grand chef, mais en plus de ça, vous avez un grand cœur. Bon, alors évidemment, inutile de vous dire que ça rigole dans le bureau depuis qu'on sait qu'on va parler du chou. Le chou, c'est un légume d'hiver et il en existe de nombreuses variétés en fait.
Exactement. Alors c'est pas vraiment un légume d'hiver. Le chou, c'est un peu l'histoire d'une famille étendue. Vous savez, Flavie, quand on parle de son cousin qui en fait est le fils de la sœur de la cousine par alliance de sa grand-mère,
c'est un peu
la même chose. C'est ça. Les choux, en fait, c'est pareil. Il y a des cousins lointains comme le chou chinois, le romanesco, le brocoli, le chou de Bruxelles. Il y a plus de 8 branches de cette famille étendue. Et on peut principalement, évidemment, la déguster en hiver. Mais ça s'allonge de septembre à mars. Et il y a même certaines variétés de chou-fleur qu'on peut manger en été.
Dites-moi, il y a certaines variétés aussi qui sont super tendances en ce moment. Moi, j'ai découvert ça il y a plusieurs années. J'adore. Alors, on dit chou kale ou chou kale parce que chacun a
Ça dépend comment on prononce, parce qu'en fait c'est américain, ça vient de là-bas, et donc kale ça veut dire chou tout simplement en anglais, donc normalement c'est chou kale, mais en France on va dire chou kale. On comprend à peu près de la même façon.
C'est quoi sa spécificité ?
C'est super tendance. C'est un très vieux chou. C'est sans doute le plus vieux de tous nos choux. Il a plus de 4000 ans. Et puis, c'est un chou qui poussait très facilement. C'était un chou sauvage. Aux États-Unis, on le consomme énormément depuis qu'il y a toute cette mouvance healthy, du mieux manger, du bien manger et de ces aliments qui nous font du bien. Et alors là, pour le coup, lui, il est topissime parce que il est riche en fibres, il ralentirait l'arrivée du glucose, c'est difficile à dire, il est riche en antioxydants, il a du calcium, des minéraux, des oligo-éléments, magnésium, potassium, bref, c'est la superstar du bien-être. Et puis, il est très bon aussi à consommer.
Ah, mais c'est délicieux. Mais alors, cru ou cuit, en fait, c'est très bon. Grosso modo, comment ça se cuisine? Il faut enlever, en fait, la feuille de la tige, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça. La tige, elle est un petit peu dure à digérer. Ouais. Alors, c'est aussi un chou qu'il faut consommer avec modération parce que il peut aussi donner des ballonnements et un peu d'acidité. Pour le dire très, très poliment. Vous avez vu ça?
En fait, il fait super péter, quoi. Ouais.
Il fait partie des super péteurs. Et il donne un peu d'acidité. Et du coup, oui, on enlève la tige principale et on mange les feuilles. Alors, on peut les manger grillées, on peut les manger bouillies, on peut les manger crues en salade. C'est vraiment un super aliment en chips, exactement, en friture, c'est top.
Très bien. Toutes les variétés de choux, est-ce qu'elles ont la même utilisation en cuisine?
Si votre question, c'est est-ce qu'ils se mangent tous? La réponse est oui. On peut après les cuisiner de plein de façons différentes, en fait. On peut les blanchir pour attendrir leurs feuilles et du coup, les utiliser comme de la pâte à ravioles. Et ça, c'est canon. On peut les rôtir au four, on peut les bouillir, on peut les manger en soupe. Hein. Au Moyen-Âge, la fameuse soupe aux choux, c'était la soupe qui était censée pas que nous donner des flatulences, mais surtout augmenter notre fertilité. Et puis, on peut les manger en gratin, grillés. Bref, il n'y a pas de limite. C'est un super aliment.
Donc, en fait, au Moyen-Âge, on faisait l'amour en pétant, quoi.
Je pense qu'au Moyen-Âge, on faisait beaucoup de choses qu'on ne fait plus maintenant. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un revival pour tenter. Ça peut être...
Oh là là.
Ah, ça pose directement l'intimité, hein. Je pense que là, il n'y a pas de débat.
Tout ça en fanfare et en trompette. Quand je veux faire manger des choux de Bruxelles à mes enfants, ça ne fonctionne pas. Ils me disent BRK et ça me rappelle la cantine. Je ne sais pas pourquoi, moi je suis passée au travers. J'adore le chou de Bruxelles. Comment est-ce qu'on peut nous réconcilier avec celui-ci qui est quand même particulièrement mal aimé?
Eh ben en fait, Flavie Flamand, au-delà du chou de Bruxelles, moi je trouve que c'est en fait un peu tous les plats de la cantine qui ont traumatisé. Vous savez, ces poissons qui ressemblaient plus à des poissons, ces carottes sans saveur, voilà, le hachis parmentier liquide. Bref, il y a beaucoup à dire sur tous ces plats et puis certaines cantines, hein, qui ont valeur à éduquer normalement nos enfants au goût. Alors cela dit, ça bouge et dans le bon sens, donc on va pas tirer un boulet rouge dessus. Mais moi, ce chou de Bruxelles, je trouve que bien préparé, il est juste excellent. Et pour, tiens, par exemple, parce que je vois que ça vous travaille quand même l'histoire des flatulences, pour éviter
pas du tout.
Que... pour éviter ces flatulences, une petite astuce. Dans l'eau de cuisson, on ajoute une cuillère à café de bicarbonate de soude.
Tiens.
Et du coup, ça va diminuer les flatulences, ça va conserver le bel aspect vif, vert du chou. Et puis, ça va éviter l'odeur aussi, parce que le chou de Bruxelles, généralement, quand on le cuit, ça sent fort dans la maison, quoi.
Mais c'est pour ça qu'ils sont mal aimés, quoi. En fait, ils font mal au ventre, ils font péter, ça sent mauvais, mais c'est super bon. Mais c'est vrai que ça a quand même pas mal de défauts, quoi.
Mais c'est tellement un paradoxe, parce qu'il y a l'expression, t'es bête comme chou.
Ouais.
Et de l'autre côté, t'es chou, t'es trop mignon. Donc,
On ne parle pas du chou en pâtisserie dans ces cas-là.
Bah, je pense qu'on parle un petit peu de tous les choux. Moi, je trouve que après, on dit que les garçons naissent dans les choux. Ouais. Bon, les filles dans les roses, c'est plus sympa.
Et dites-moi, comment je le choisis bien, mon petit chou, justement?
Ah bah, c'est un peu comme tout, pour tous les légumes, en réalité, c'est la fermeté en main.
J'en étais sûre.
C'est un gage de fraîcheur, la couleur aussi, vive, qui va nous permettre de faire le bon choix. Il faut que les feuilles ne soient pas flétries, évidemment. Et du coup, on aura un chou qu'on peut conserver, environ 3 à 5 jours dans le bac légumes de son réfrigérateur. Et si on vise un record de longévité, tiens, un petit truc, on enroule un papier absorbant humide autour de la base de son chou. Et du coup, il va conserver toute sa fraîcheur et son tonus.
Très bien. Vous avez une petite recette pour la route?
Eh ben oui, j'ai une recette.
C'est cuit ou cru? Parce que vous êtes quoi? Vous êtes cru ou cuit?
Alors moi, je suis tout. Je suis gourmand, donc je suis cuit, je suis mi-cuit, je suis cru. Moi, quand je cuisine asiatique, par exemple, je mets le chou chinois en dernier pour conserver un peu son croquant, donc il va être mi-cuit. Je mange le brocoli cuit entier ou alors râpé pour faire un couscous végétal.
Moi aussi.
Et puis le chou-fleur, je le mange cuit, rôti au four. Et puisque vous me demandiez si j'ai une recette, c'est la recette que je vais vous proposer.
Alors j'adore cette recette, c'est comme ça que je fais chou-fleur, ça a été une révélation pour moi, c'est parti.
Alors voilà, on va enlever les feuilles vertes du chou-fleur, on va le laver, le mettre dans une casserole d'eau froide, salée. On porte à ébullition, on laisse cuire environ 8 minutes après première ébullition.
Ouais.
On le sort, on l'égoutte et là on l'enduit d'huile d'olive et on le masse avec un mélange paprika et cumin pour bien l'enrober. Ensuite, on le laisse rôtir au four à 200 degrés, le temps qu'il soit joliment coloré. Et pendant ce temps-là, on va préparer la sauce. Alors, direction l'Orient, avec de la sauce Trina ou Tahina. C'est de la crème de sésame, en fait. On va mettre 2 cuillères à soupe dans un bol de cette crème de sésame. Puis, on va ajouter le jus d'un citron. On mélange et on détend avec de l'eau tiède jusqu'à obtenir une consistance épaisse, mais pas liquide. On ajoute une gousse d'ail haché, 1 cuillère à café de paprika. On assaisonne de sel, de poivre. Et une fois le chou-fleur prêt et cuit, bien rôti avec cette sublime couleur et ce croquant à l'extérieur et le fondant à l'intérieur, on le sort du four. On fait couler la sauce Trina dessus et yalla, il vous reste plus qu'à déguster.
Et yalla, on pète de joie. Non mais Grégory, pardon, elle était trop facile celle-ci.
Elle est
super drôle et elle me fait beaucoup rire en tout cas.
Moi
j'espère
aussi.
Nos auditeurs aussi. Merci, désolé, on est samedi matin, mais je voudrais préciser que c'est une super recette et que pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est très simple. Il suffit juste d'avoir un petit peu de temps, je dirais, mais c'est très simple à faire et surtout c'est délicieux et ça réconcilie avec le chou-fleur, quoi. C'est la meilleure recette de chou-fleur et c'était vous qui nous la donniez, Grégory Cohen. Merci beaucoup.
Merci Flavie.
On vous aime bien dans cette émission, on aime bien vous entendre le samedi matin. On va se faire... vous voulez un bisou ou pas?
Je veux toujours.
Alors on vous fait des bisous. Je rappelle surtout votre page Instagram, Grégory Cohen, et puis votre livre 60 classiques de la pâtisserie au Nutella aux éditions Larousse, parce que vous n'êtes pas là que pour nous parler de choux, évidemment, Grégory. Je vous embrasse, Grégory. Prenez bien soin de vous.
Bisous, Flavie.
Merci et à bientôt sur RTL. C'est passé vite. L'émission, elle se termine déjà et dans la bonne humeur. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver le replay sur l'appli RTL. Quant aux recettes, vous le savez, elles sont déjà sur les réseaux sociaux de Nous Voilà Bien et sur la page Instagram de Grégory Cohen. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. Et à la semaine prochaine, 9h15, pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse.
Nous Voilà Bien sur RTL avec Flavie Flamand.